Et je vous propose d'écouter une fable et puis un texte de l'épître de Paul aux Romains. La fable est tirée du livre des Juges, c'est une fable vraie, elle vient de la Bible. C'est dans le livre des Juges au chapitre 9. Les arbres s'étaient mis en route pour aller choisir celui qui serait leur roi. Ils dirent à l'olivier, « Règne donc sur nous. » L'olivier leur dit, « Vais-je renoncer à mon huile que les dieux et les hommes apprécient en moi pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent au figuier, « Viens donc, toi, régner sur nous. » Le figuier leur dit, « Vais-je renoncer à ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens donc, toi, régner sur nous. » La vigne leur dit, « Vais-je renoncer à mon vin qui réjouit les dieux et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres ?» Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens donc, toi, régner sur nous. » Mais le buisson d'épines dit aux arbres, « Si c'est loyalement que vous me donnez l'onction pour que je sois votre roi, alors venez vous abriter sous mon ombre. Mais s'il n'en est pas ainsi, un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. » Et puis, dans l'épître de Paul aux Romains, c'est au chapitre 13, les versets 1 et suivants. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu recevras ses éloges, car elle est au service de Dieu pour t'inciter au bien. Mais si tu fais le mal, alors crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte le glaive. En punissant, elle est au service de Dieu pour manifester sa colère envers le malfaiteur. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre, non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. Et dans ce texte, je retiens juste la dernière phrase. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre, non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. Alors je crois que j'ai fait tout à l'envers, il doit y avoir un jeu d'orgue quelque part, mais j'ai inversé. Voilà, c'est le cantique.
Non, vous pouvez chanter le cantique 399 dans le petit recueil Louange et prière.
Voilà, je vous invite à vous lever. 399.
J'ai soif de ta présence, vive chef de la foi, envers mes blesses immenses, qui brûle-je sans toi, chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin. Viens Jésus et demeure.
Frères et sœurs, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et en particulier après cette confession de foi que nous venons d'entendre, après l'accueil par vous-même de Geoffrey parmi vous. Je voulais vous saluer toutes et tous et vous dire aussi qu'à l'occasion de cette année commémorative des 500 ans de la Réformation, je vous invite avec ces deux textes à méditer sur les relations entre la religion et la politique, entre ce que l'on appelle le domaine religieux et le domaine politique, sur la distance nécessaire qui en définissent leur champ, distance qui leur permet de ne pas se perdre dans le désir d'absoluité, de toute puissance l'un et l'autre. C'est aussi parce que la Réforme a effectivement pensé ce rapport que je voulais reprendre ce texte de l'épître de Paul aux Romains sur la soumission aux autorités, avec en avant-propos la fable de Jotham, qui est une critique acerbe de tout pouvoir, puisque les arbres, très démocratiquement, vont finir par élire le pire d'entre eux, le buisson d'épines. Le regard protestant sur ce sujet a toujours été éclairé d'une façon ou d'une autre, par la lecture de la Bible. Selon ce qu'a écrit par exemple Martin Luther, il n'y a jamais eu de saint qui ne se soit préoccupé de questions sociales ou politiques. Il écrit cela en 1533 dans un commentaire du psaume 127. Et aussi bien, cette phrase autorise à relire et comprendre l'histoire de l'Église, notre histoire au fond, avec un esprit lucide, grâce au détour de la Bible, concernant ce rapport du religieux et du politique. Calvin, pour sa part, écrit dans le même sens. Et il dit, au fond, dans son livre de l'institution de la religion chrétienne, au premier livre, il dit que la Bible est comparable à des lunettes pour lire le monde. En faisant donc de la Bible non pas un livre de recettes, mais bien un outil d'interprétation. Ce 16e siècle de feu et de lumière aura donc illustré de la plus belle façon, et parfois dans le sang, combien la conviction religieuse, d'une part, la religion, et l'autorité du prince, d'autre part, la politique, auront dû apprendre à vivre ensemble, telles des sœurs jumelles qui se jalousent, qui se surveillent, sans n'être que des rivales. Mais il se trouvera aussi que la Réforme sera ce moment où le rapport entre ces deux forces, le religieux et le politique, sera repensé, sera reformulé, sera visité. Et les tentatives pour libérer l'Église de la puissance publique aboutiront peu ou prou dans la tradition réformée à de nouveaux équilibres confessionnels et territoriaux. Ces équilibres seront difficiles à tenir. Vous connaissez l'histoire de l'Europe et vous connaissez aussi l'histoire de la France. Mais ces équilibres deviendront nécessaires pour que l'Évangile puisse rester, malgré tout, une force de libération, un message d'espérance, pour que l'Église elle-même reste libre de ses choix, de même que le prince, lui aussi, reste libre de ses choix. Et donc la Réforme introduit, avec cette fameuse distance entre le religieux et le politique, une distance nouvellement comprise, un lent et complexe processus qui mènera peu à peu à la reconnaissance d'un espace public. Je parle de distance et j'ai toujours cette expression pour dire qu'il s'agit ici d'une distance de sécurité. Et là, tout le monde comprend ce dont il s'agit. Nous ne nous perdons pas de vue, il y a bien un écart, mais nous nous voyons l'un l'autre. Le religieux voit le politique à l'œuvre et le politique, sans reconnaître le religieux, le connaît malgré tout. Ce lent processus qui mène à la reconnaissance d'un espace public, dans les sociétés occidentales en tout cas, fera en sorte que cette société, justement, ne sera pas saturée par le religieux, saturée par le religieux d'une seule doctrine, et il s'agira donc d'un espace où pourra s'exprimer la diversité des confessions et peu à peu la pluralité des convictions. Aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, une défense du politique, une apologie du politique est sans doute nécessaire. Oh, la religion aussi mérite qu'on la défende. Mais vous savez, la religion, c'est comme le sel dans le plat, il en faut un peu, mais pas trop. Aujourd'hui, il est nécessaire de défendre le politique. Non seulement au regard du discrédit de son discours et de la difficulté avec laquelle ce qu'il apporte se comporte, mais parce qu'il est une conviction dans la tradition chrétienne enracinée dans la pensée du Nouveau Testament qu'il n'y a pas d'humanité véritable sans un ordre politique. Et c'est exactement l'esprit dans lequel se situe l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à ses paroissiens de Rome. La vocation humaine, rappellera Calvin, n'est pas de vivre pêle-mêle comme des rats sur la paille, ni comme en un régime de barbarie, mais selon un ordre où il y ait, et je le cite encore, « entre les hommes, honnêteté et modestie, en somme qu'il apparaisse forme publique de religion parmi les chrétiens et que l'humanité subsiste entre les humains ». Et je termine avec ces derniers mots pour les souligner. Et que l'humanité subsiste entre les humains. Oui, je crois que le politique mérite d'être défendu car il court le risque de se perdre dans la théâtralité d'une parole qui se vide de sens et une théâtralité redoublée par la puissance médiatique. Et à cette théâtralité d'une parole qui se vide de sens doit s'opposer sans cesse la crédibilité de la promesse républicaine. C'est cela que je voulais rappeler aujourd'hui, et je reprends aussi une citation que j'ai donnée lors de ce fameux colloque auquel Marc a eu la gentillesse de faire référence tout à l'heure. C'est une citation d'un pasteur suisse qui, en 1940, exerce à Lyon et qui se trouve en chaire, qui s'apprête à aller en chaire lorsque la Gestapo va l'arrêter. Heureusement, sa nationalité suisse le préserve de la torture et de la déportation. Mais dans sa prédication en 1944, il écrivait ceci : « L'Église est le maquis du monde. Il ne s'agit donc pas de prendre le pouvoir, mais d'organiser la résistance en attendant le grand débarquement du royaume. » Cette citation, que vous connaissez peut-être, puisqu'elle a été relevée récemment, cette citation replace vraiment le christianisme, ici dans sa dimension protestante, devant une exigence. Et c'est l'exigence d'une réflexion sur son rapport au politique. Elle oblige à relire précisément ces premiers versets de Romains 13, que vous avez entendu tout à l'heure, ce fameux chapitre de l'épître de Paul qu'a interprété Karl Barth à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il s'insurgeait contre l'instrumentalisation de l'Église par le pouvoir politique. Il oblige à relire donc Romains 13, non comme une injonction bête et méchante à la soumission au pouvoir, mais à la recherche incessante d'une relation juste et libre à son endroit. Et comme dit l'apôtre Paul, il s'agit de se soumettre en conscience. Et vous savez qu'une soumission en conscience, c'est une soumission libre et lucide. Libre, non pas obligée, et lucide, non pas naïve. Cette citation ne désigne pas l'Église ici comme institution, mais elle parle des chrétiens. Elle parle de chacune et de chacun de nous comme acteur de transmission d'un message d'espérance, de résistance, comme sentinelle des temps qui viennent, des temps qu'il faut discerner et dont il s'agit d'annoncer non seulement les promesses, mais aussi les périls. Il s'agit donc de se faire connaître, il s'agit de faire connaître ce message, il s'agit de transmettre une information, comme nous l'avons fait tout à l'heure, une bonne information, une belle information, un évangile. Dieu aime chacun de nous, et il s'agit d'oser passer inlassablement, et autant qu'il faut, parfois à contre-temps, de la clandestinité au grand jour, de la discrétion typiquement protestante, paraît-il, enfin c'est ce qu'on lit dans la presse, à la place publique. L'existence et la vitalité même de ce que l'on nomme aujourd'hui précisément l'espace public sont les signes distinctifs des régimes démocratiques. Et il faut donc à la fois se réjouir de cette réalité, il faut en prendre conscience, mais il faut aussi savoir que cette réalité peut se révéler fragile, peut se trouver menacée, très vite aussi, par des événements et des logiques de violence qui s'enchaînent, par le fait d'acteurs peu soucieux du vivre ensemble. L'espace public, qui existait plus ou moins dans la Rome de l'apôtre Paul, l'espace public, aujourd'hui, c'est ce lieu qui est au service de la délibération démocratique et qui prépare l'opinion, qui engage une société vers une décision commune. Une société donc, comme je l'ai dit, qui ne soit pas saturée par le religieux, mais qui ne soit pas non plus saturée par le tout politique, par le pouvoir, qu'il soit dogmatique, policier, militaire, mais qui peut ouvrir et cultiver un tel espace de liberté, une sorte d'interface entre les citoyens et les pouvoirs, et qui se présente comme un lieu d'échange symbolique, un lieu d'échange de sens, pour vivre le consensus, le débat, la discussion, et envisager l'avenir autrement que par le rapport de force et la violence. Vous le savez, depuis 1905, nous sommes passés ainsi d'un régime qui n'avait pas vraiment cette possibilité-là, un régime, comme disent les sociologues, de catholicité, à un régime de laïcité, de sorte que chaque confession s'est trouvée, y compris la nôtre, dans cet espace public, à équidistance des autres et des autres acteurs, de même qu'à équidistance des autorités et des pouvoirs. Chaque confession s'est trouvée dans un rôle qu'elle a dû apprendre et assumer publiquement de plus en plus, ensemble. Et c'est le début du dialogue écuménique, et c'est le début des dialogues interreligieux. C'est le début de cette grande conversation religieuse dans une société qui n'est plus cadenassée par le pouvoir politique. Le protestantisme, pour sa part, et chacun de vous, se tiennent engagés dans cette performance que je qualifierais de citoyenne, mais avec la double citoyenneté française et du royaume, française et chrétienne, d'ici-bas et de l'au-delà. Une performance à vivre non pas seulement par intérêt, puisque nous avons intérêt à participer au débat dans la société, mais par conviction, parce que nous sommes appelés à transmettre ce que nous avons reçu, parce que nous sommes fondés sur l'affirmation constante de ce fameux principe de la liberté de conscience qui nous oblige, en quelque sorte, à transmettre ce que nous croyons. Alors, voici ce que je pourrais dire comme premier point dans cette méditation sur le rapport du pouvoir et de la religion. Nous ne nous tenons pas en surplomb, nous ne portons pas un regard en surplomb de la société, ni nous nous tenons accoudés au balcon, au-dessus de la place, nous considérant comme préservés du tumulte, de l'espace public et du débat politique, en attendant notre heure pour avoir le dernier mot. Au contraire, nous nous percevons les uns et les autres, du moins c'est comme cela que j'entends le témoignage chrétien, comme des coproducteurs de cette société, comme des compagnons de route d'une république et de son histoire, y compris dans ces derniers combats qu'elle a du mal à remporter elle-même après les avoir énoncés, et je les cite pour qu'on les ait bien en tête, puisque la réforme elle-même y était déjà engagée, bien avant la République, alors même que ces combats étaient peut-être confus dans son esprit, l'égalité de l'homme et de la femme, l'égalité entre les hommes, puisqu'au nom de la grâce de Dieu, nous sommes tous à équidistance du salut, il n'y a donc plus de classe différente entre les uns et les autres. Égalité de l'homme et de la femme, mais aussi, puisque le Christ s'approche du plus petit, lutte contre l'exclusion et refus de la grande pauvreté. Et puis, comme le Christ est non seulement rabbin et prophète, mais aussi enseignant, éducation, éducation pour tous. Et puisque lui-même a vécu l'exil, droit d'asile et accueil des réfugiés. Et puisque lui-même, on n'a jamais su exactement sa vie personnelle et intime, respect et bienveillance pour les sexualités. Et puis, puisque les choses se compliquent avec la technique, les questions liées aux gestions des extrémités de la vie, avant la naissance et au moment de la naissance, ou juste avant la mort, la procréation médicalement assistée, la gestion pour autrui, l'assistance médicalisée au suicide, toutes ces questions qui sont devant nous et auxquelles il nous faudra, d'une façon ou d'une autre, répondre. Sans parler de celles qui sont très complexes, mais qui nous intéressent et de façon vitale, la question de la dissuasion nucléaire, la question de la transition écologique, et puis, un sujet sur lequel je pense qu'il y a ici quelques spécialistes, du moins je l'espère, parce que demain la question se pose, le transhumanisme. Les choses bougent donc, les choses bougent, et ce processus de participation active au débat se poursuit. Et désormais, la nécessité se fait ressentir, pour nous, de la prise en compte de cette profonde mutation, non pas seulement de la société dans sa projection vers l'avenir, mais aussi dans son paysage religieux, où chaque confession et chacun de nous, y compris les autorités et les pouvoirs publics, sont amenés à se positionner. Les églises chrétiennes, mais aussi les autres religions, doivent aborder ces sujets et les traverser. La conversation démocratique s'enrichit alors peu à peu, et c'est difficile, c'est difficile. Elle s'élargit à des partenaires jusque-là ignorés et même parfois méprisés. Le temps est même celui des questionnements sur la pertinence de la foi chrétienne, puisque, vous le savez, le christianisme est religion presque minoritaire dans ce pays, mais dans cette religion minoritaire, le protestantisme lui-même est ultra-minoritaire, et le protestantisme luthéro-réformé ultra-ultra minoritaire. J'ai hésité à vous la raconter, celle-là, mais je le fais. Nous sommes au ministère des Affaires étrangères, il y a quelques mois. L'un des conseillers aux affaires culturelles nous dit « Qui va gagner la finale ?» Alors, je regarde mon calepin, l'OM n'avait pas encore joué, donc ça n'était pas de foot qu'il parlait. La demi-finale aujourd'hui, c'est le christianisme, catholique et protestant, un peu orthodoxe, contre les pentecôtistes et les fous de Dieu. Première demi-finale. Deuxième demi-finale, c'est l'islam, sunnite, chiite, soufi, contre Boko Haram et Daesh. Qui allons-nous trouver en finale ? Si vous voulez, lorsqu'on parle de mutation, de transformation, de recomposition des paysages religieux dans le monde et en Europe, c'est à cela que pensent les hommes politiques, parce qu'ils ont comme souci l'ordre, la paix et la sécurité. Après ces interrogations fortes sur la pertinence du religieux dans son rapport au politique, au cœur de ces interpellations, où nous trouvons un monde complexifié, pluralisé, presque atomisé, où le christianisme lui-même est contesté, où il est même perçu par certains comme déjà obsolète au fond, déjà du passé, facultatif, périphérique, mis à l'écart pour toutes les décisions, dans ce contexte où l'on parle d'exculturation du christianisme, vous savez que ce mot d'exculturation veut dire en français courant l'excommunication, eh bien, il nous faut avancer tant bien que mal. Il nous faut aller vers ce deuxième point que je voulais évoquer avec vous, et c'est cette rupture plus ou moins assumée entre christianisme et culture. Cette recomposition d'une culture sans religion chrétienne, cette construction d'une culture sans culte, du moins sans culte qui serait le nôtre. Cette construction d'une religion sans culture, hors sol, en quelque sorte, sans réel enracinement. Et je pense ici précisément à certaines communautés pentecôtistes d'Afrique subsaharienne ou d'Asie ou d'Amérique latine, ou à certains islams qui n'ont plus rien à voir avec leurs origines, chrétiennes d'une part ou musulmanes d'autre part, et plus aucun enracinement. Dans ce contexte-là, la voix luthéro-réformée, ultra-minoritaire, exprimera-t-elle une peur obsidionale, un repli sur soi, un repli convictionnel et identitaire pour dire que seulement dans cette tradition luthéro-réformée se trouve la vérité? Ou bien osera-t-elle affronter les défis? Et sortir de ses murs, donc. Aller sur la place publique, aller dans l'espace public. Devant cette situation nouvelle, la réactivation des discours identitaires et conservateurs fait peur. Les réaffirmations convictionnelles de la doctrine contribuent à faire comprendre que le christianisme peut être de mauvaise humeur vis-à-vis des évolutions de la société, qu'il n'est pas un contributeur éclairé, mais qu'il s'enferme tout seul dans un corner sociétal, pour ne pas dire éthique, puisqu'il dit non à chaque fois, et puis qu'il dit oui après coup, comme à regret. Le sursaut qui permet de tromper cette vision peu optimiste consiste bien à être présent dans ce que j'appelle, avec beaucoup d'autres avant moi, l'espace public. Non pas la scène publique, entendons-nous. Je ne parle pas de la scène médiatique, mais je parle bien de l'espace public, c'est-à-dire des lieux citoyens où se font le vivre ensemble, où se fabrique le lien, où se crée l'opinion de demain. Et c'est ici qu'il nous faut nous méfier effectivement de cet investissement de la scène publique comme s'il s'agissait de se justifier par je ne sais quelle œuvre d'un communiqué de presse ou d'un bel article dans un journal qui ferait parler en bien des protestants. Je parle de l'espace public où il s'agit du dialogue citoyen et ici, nos églises et chacun de nous se trouve interrogé. Notre paroisse, alors je dis notre, cette paroisse, est-elle en prise avec cet espace public? Oh, je sais bien que oui, par tous ces débats et par toutes ces conférences, et donc ce n'est pas ici que je commencerai l'interpellation, mais l'interpellation vaut aussi pour la paroisse de l'oratoire. Avec qui dialoguons-nous? Avec le même ou avec l'autre différent? Avec qui dialoguons-nous et qui invitons-nous, ceux qui sont plutôt avec nous ou bien osons-nous le dissensus qui agace et qui ne fait pas aboutir forcément à un point d'accord. Troisième point d'étape et dernier, il ne s'agit donc pas de se tromper de cible, il ne s'agit donc pas de s'effrayer, de baisser les bras, de se réfugier au désert ou je ne sais quoi encore, il ne s'agit pas de prendre acte de la sortie de l'histoire du christianisme. Il s'agit de s'interroger sur la pertinence de ce message que la réforme a révélé, a remis au goût du jour, comme une rivière souterraine qui réapparaît en plein XVIe siècle et qui irrigue maintenant l'Europe et le monde depuis 5 siècles. Il faut rappeler avec quelque autorité, non pas politique pour le coup, mais spirituelle, et cela vous revient. Il faut rappeler avec quelque autorité spirituelle à la République qu'elle ne peut pas tout, qu'elle ne pourra pas tenir ses promesses toute seule, sans les ressources de la foi chrétienne, sans ses énergies qui œuvrent au service de la justice. Oui, il faudra faire valoir cette parole pertinente et impertinente d'une éthique, par exemple, qui ne se veut pas normative, mais toujours en recherche, qui se tient aux aguets des souffrances et des attentes des hommes. Il faudra faire valoir l'exigence de responsabilité partout où le citoyen est dépossédé de sa dignité. Il faudra dire que l'homme est capable, en bien des lieux où l'asservissement semble l'emporter, de lutter. Il faudra faire valoir que l'État doit se préoccuper du plus vulnérable au lieu même de sa propre reproduction, au risque de créer une société barbare et d'en être comptable un jour, à force de refuser l'accueil de l'exilé, du sans-asile, du handicapé et de l'enfant orphelin. Cette force d'interpellation sur la responsabilité, la capacité, la vulnérabilité, nous pouvons nous en faire l'écho dans nos engagements, dans nos œuvres, dans nos associations, dans nos débats et surtout là où nous sommes présents dans l'espace public. Ici, et je terminerai sur cette interpellation, le protestantisme est en défaut. Il manque d'élus. Il manque de responsables associatifs. Il manque de hauts fonctionnaires. Il manque de relais dans la société. Son ultra-minorité n'est pas un atout. Dans ce rapport du politique au christianisme, il nous faut inventer un nouvel humanisme qui se fonde sur l'Évangile, dans le maquis du monde et devant les dangers qui menacent. Tel est le défi, non pas le nôtre seulement, mais celui à vivre avec les frères et sœurs chrétiens des autres églises et en lien avec les responsables de toutes les religions. Ce questionnement est le questionnement de tous les citoyens de ce pays. Amen.
Thank you.